Les textes ne relèvent jamais d'un genre et d'un enfermement dans un genre très rigide. Et ces textes personnels, ce sont aussi, et peut-être avant tout, des essais. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des publications, il y a une acuité réflexive, il y a un commentaire chez l'auteur elle-même. Et ce que je vais dire va en grande partie être de la redite, j'en ai tout à fait conscience, pour éviter la plate paraphrase qui risquerait d'être uniquement déceptive, je vais donc essayer de la citer le plus souvent possible. Et puis, comme un défi aussi que je me fixe, puisque je me mets dans ses pas, je vais adopter une de ces stratégies qui consiste à laisser venir les associations avec d'autres lectures, d'autres auteurs, comme elle le fait elle-même, pour éclairer justement ma lecture et ma perception de ces textes. Donc le motif sur lequel je vais organiser mon commentaire, il fait partie d'un réseau plus large si on prend l'œuvre intégrale, celui justement de la question des langues, de leur croisement, de leur heure. Et je vais, puisque je circonscris aux écrits personnels, travailler du côté de l'absence d'une langue, hein, celui justement de ce que l'auteur elle-même appelle dans son dernier ouvrage, Lettre à mon père, un silence à perpétuité. C'est le silence de la langue arabe, non transmise par le père. C'est un motif qui fait obstinément retour. Obstinément est un terme totem de Leïla Sebar également. Je le reprends à mon compte. Ça revient parce que ça ne passe pas. Michel Laronde nous disait cela hier. Quand le motif, quand quelque chose revient, c'est que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mais tout de même, lorsque le motif revient et qu'il est soumis à un sas qui à chaque fois crée des fermetures ou des ouvertures différentes, quelque chose arrive à traverser le sas et à se diluer, même s'il reste toujours un résidu irréconciliable. Donc il ne s'agit pas d'un ressassement fixe et stérile. La réitération fait que des éléments arrivent à être filtrés et se disséminent en réseau complexe. Je vais donc tenter justement de suivre les pistes, les frayages de ce qui fait réseau. Et je vais le faire en trois temps. D'abord, je vais travailler à voir que écrire sur le silence, donc je vais d'abord commencer par cette étape, écrire sur le silence. Et je voudrais faire remarquer que cette gageure, justement des textes personnels, a d'abord consisté à oser ou à pouvoir écrire sur ce silence fondateur. Comme ces textes qui relèvent de ce cycle du silence s'échelonnent sur plusieurs années, depuis la fin des années 70 jusqu'au tout dernier, donc paru cette année. La stratification, l'épaisseur, l'empan temporel que cela recouvre fait peut-être oublier, somme toute, la tardive apparition du motif dans l'écriture de Leïla Sebar. Il me semble que le premier texte qui ose aborder cette question du silence, est publié en 78. Il est donc écrit dans la maturité, probablement vers 35-36 ans, peut-être un peu plus, mais les analyses autobiographiques rappellent que, pendant longtemps, à ce silence de la langue du père a correspondu en retour un silence de Leïla Sebar elle-même. Et cela a constitué une sorte de refuge. Alors, refuge dans le silence d'une enfant, volontiers mutique, trouvant justement un abri dans les livres, plus tard devenue adulte dans le silence des bibliothèques, je reprends l'expression au dernier ouvrage, ou bien fuite dans une sorte de détour, par exemple celui d'une recherche effectuée sur l'image du bon nègre dans la littérature du XVIIIe portant sur la Caraïbe, dont l'auteur elle-même, dans cette conscience de plus en plus affûtée qu'elle développe au fil justement de la pratique de l'essai, décrit elle-même comme, dans le fond, porteuse déjà de cette question du silence en creux, puisque dans ce qui apparaît très éloigné géographiquement, l'image du nègre de la Caraïbe, il y avait peut-être déjà une interrogation sur ce qui avait pu motiver le silence du père qui, dans le fond, selon l'auteur, aurait été un bon colonisé lui-même. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a au départ cette sorte justement de protection contre la souffrance provoquée par la non-transmission, dans un refus de la reconnaître, même dans une attitude de déni, pour utiliser un mot du vocabulaire psychologique. Dans le dernier texte, « Lettre à mon père », je relève cette phrase, « La langue arabe, je ne voulais pas savoir qu'elle existait. » Il y a bien là un déni qui conduit encore, me semble-t-il, à la fuite dans des activités extrêmement prenantes, militantisme féministe ou politique, qui absorbe, engage toute la personne dans des causes qui sont sincèrement épousées, bien sûr, mais qui détournent, qui permettent justement d'éviter de s'affronter à ce retour sur soi. « Je me suis perdue moi-même », écrit Leïla Sebar, dont je ne parle pas la langue de mon père. Et plus encore que l'histoire d'un détour hors de l'histoire personnelle, c'est même de l'histoire de l'Algérie que ces stratégies de fuite ont détourné l'auteur pendant des années. De l'Algérie, pendant longtemps, je n'ai rien voulu savoir, avoue-t-elle désormais. Mais bien entendu, le problème a surgi avec d'autant plus de force qu'il avait été enfoui, qu'il avait été refoulé, et arrive donc le moment de l'irruption, de la trouée du déni, le moment où pointe la nécessité d'affronter le nœud de souffrance lié à ce silence de la langue maternelle, et d'oser trouver les mots justes pour le dire, sans détour, dans des énoncés chocs, qu'on connaît au moins par les énoncés des titres. « Je ne parle pas la langue de mon père. Mon père ne m'a pas transmis sa langue. Le silence de la langue de mon père, l'arabe. » Au fur et à mesure qu'est remise sur le métier cette question lancinante, se produit une évolution. Hein, c'est ce que je disais, ce n'est pas un ressassement. Le manque qui était présenté comme subi se transforme en décision assumée de ne pas apprendre cette langue. Non que ce manque se fasse au fil du temps moins aigu, moins prégnant, mais la conscience de l'impossibilité de jamais le rédimer fait que l'auteur accepte comme constitutif de son identité ce manque. Une part de cette identité reste ainsi en béance. Puisque une langue acquise ultérieurement de façon académique jamais ne pourrait remplacer ce que l'auteur appelle la langue du berceau. Alors, cette acceptation n'est en rien le signe d'un détachement, d'une indifférence à la langue en question. C'est au contraire l'importance l'aveu de l'importance cruciale que cette langue acquiert. Et c'est là que je veux faire un premier rapprochement qui me vient immédiatement à l'esprit avec Georges Perec. Georges Perec fait de la même façon des récits multiples, par exemple sur des souvenirs d'enfance dans lesquels il avait complètement occulté la langue yiddish dans laquelle il baignait, justement, et qui brusquement fait retour à l'âge adulte. Et il réécrit, et Philippe Lejeune a étudié ces variantes, au moins 7 variantes d'une scène, qui est aussi une scène fondatrice, dans laquelle il reconnaît soudain, il a soudain la révélation qu'il s'agit du yiddish, mais qui lui semble être, et qu'il veut laisser dans un tel état, une sorte de langue mystérieuse, avec des lettres qui sont de pur dessin, et qu'il décide d'appeler, parce qu'il a une vague connaissance de ce que pourrait être l'alphabet hébreu, Yod, Yud, ou bien Gamet. C'est dire qu'il sait que cela pointe l'origine, mais qu'il doit y rester dans le secret, dans une gangue, si vous voulez, de mystère, qui est le mystère du sacré de l'origine. Je vois de la même façon le rapport de Leïla Sebar à l'arabe paternel, qu'elle transforme au fil des réitérations de ce motif en une langue, la langue secrète, la langue du sacré. Hier, elle donnait une ultime variation, une énième variation, la langue sucrée, la langue du père, qu'elle ne connaîtra ou qu'elle ne veut pas connaître. Cette langue devient donc imaginairement, pour elle, la langue sauvage, c'est un terme que je reprends à ces textes, une langue non répertoriée dans les usages, qui se situe justement dans un rapport à l'archaïque, et je dirais qui se situe dans la polarité symbolique du maternel, comme une sorte de langue originelle perdue, se passant de toute élaboration en système linguistique véritablement. Alors que la langue qui est officiellement maternelle, mais les psychanalystes disent que précisément c'est une erreur de dénomination, elle n'est en rien maternelle, la langue que nous avons l'habitude de désigner comme maternelle, elle se situe résolument. Je pense à Jacques Assoun et je regarde sa nièce. Bon, Jacques Assoun parlait par exemple dans un ouvrage remarquable qui s'appelle « L'exil de la langue, fragment de langue maternelle » du fait que la véritable langue maternelle, c'est la langue qui se passe de mots, éventuellement qui est constituée de berceuses, mais qui est la langue des gestes, la langue de la pure tendresse que la mère établit avec l'infance, celui qui ne parle pas encore. Alors que la langue dite maternelle se situe résolument du côté du masculin, ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne qui peut le symboliser, hein, parce que justement, elle apprend à l'enfant à entrer dans le monde de l'altérité, dans le monde de la socialité. Donc, l'arabe est plutôt sur cette polarité-là. Elle reste la langue qui se fonde sur l'immédiateté du sensible, et c'est pourquoi elle reste la langue du secret. C'est la langue, en tout cas, des moments où, enfant, elle interceptait cette langue à la dérobée, puisque jamais tendue vers elle, dans ces circonstances, elle était portée, cette langue, par la voix de son père, conversant en arabe, avec les mères d'élèves qui venaient lui rendre visite, avec les femmes de ménage travaillant à la maison, avec les membres de sa propre famille ou de son village d'origine. Cet arabe paternel incompréhensible reste à jamais pour elle pure musique enveloppante. La caractérisation est celle de Leïla Sebar elle-même, l'arabe enveloppant des sœurs et mères du père. Ou bien encore, cet arabe peut être mélodie joyeuse, perçant dans le timbre du rire arabe du père. Cette observation est très finement, quoique paradoxalement, notée. De même qu'on change de voix en changeant de langue. Quantité d'écrivains translangues ont dit cela. Je pense à Hector Biancotti, par exemple, qui disait que même en essayant de perdre son accent argentin quand il parlait espagnol, il avait le sentiment d'habiter différemment son corps. On change de voix en changeant de langue. Et on peut, me semble-t-il, j'en suis tout à fait convaincue à la lecture des textes de Leïla Sebar, changer de timbre en riant à partir de l'impulsion prosodique d'une langue ou d'une autre. Donc, à la différence des langues objectivement répertoriées, cette langue arabe est devenue purement imaginaire. Elle n'est pas portée de mots à comprendre. Toujours est-il que la stratification des textes personnels successifs permet d'écrire sur ce silence paternel, en délestant la langue arabe de la charge d'agressivité ou de violence qu'elle était susceptible de porter. Cette langue arabe qui s'absente, s'engouffre dans ce silence, absorbe justement aussi la violence, par exemple celle qui était véhiculée par les insultes lancées par les garçons des rues, dans une scène qui revient de façon là aussi lancinante et qui n'est peut-être qu'un souvenir écran. Quoique délestée d'une partie de ce poids, même ainsi investi imaginairement, le silence garde encore une charge douloureuse, qui est celle de la marque irréversible d'une séparation qui a marqué la famille, pourtant unie. Tout un pan de l'histoire du père, de sa culture, de sa personnalité d'arabe musulman demeure inaccessible à la femme française et aux enfants élevés dans un îlot français, dans une république utopique au cœur de l'Algérie coloniale. Les livres lus abondamment, avidement par la suite, pour acquérir une connaissance de l'histoire, de la culture, du patrimoine littéraire de l'Algérie, ne se substitueront jamais à l'innutrition naturelle et profonde d'une transmission familiale. Le père reste l'étranger familier. Dans une formule qui revient et qui frappe tout lecteur, et qui résonne, me semble-t-il, en tout cas à mes oreilles, d'écho à la formule freudienne de l'inquiétante étrangeté, de ce qui est proche et familier, mais peut se retourner en son contraire. Ce sentiment de blessure, de séparation radicale éprouvé dès l'enfance, il motive naturellement l'écriture de l'écrivaine adulte lorsqu'elle accepte de sortir du déni. Il pousse à sans cesse fouiller la plaie de façon directe, frontale, dans des formulations choc. Par exemple, je n'en citerai qu'une, mais il y en aurait bien d'autres, dans « Je ne parle pas la langue de mon père », des enfants lui sont nés à ce père, corps et langue divisés. même si ces aveux essaient de conjurer la souffrance engendrée, de rassembler des parties de soi ainsi dissociées pour arriver à l'emploi d'un jeu maîtrisé par un sujet enfin unifié. Ce sentiment d'écart fondamental, il caractérise aussi l'écriture de façon plus indirecte. Et il me semble qu'il y a là une marque identificatrice de l'écriture. La plupart des scènes contenues dans les textes autobiographiques, la plupart des récits d'ailleurs, qui sortiraient de ce cycle des textes intimes, ils émanent d'une observatrice qui est empathique, mais toujours en retrait, à distance, séparée, que ce soit par une frontière effective ou symbolique. Elle est aussi, cette observatrice, condamnée à l'immédiateté du présent, tant elle se pense amputée d'une transmission et d'une mémoire. Je cite cette phrase remarquable dont je ne parle pas la langue de mon père, simplement, la mémoire est blanche, vide, sans inscription religieuse ou familiale, qui lui donne de la profondeur, une épaisseur tangible, réelle, un sol dont on puisse lire et déchiffrer les strates géologiques, généalogiques. Cette observatrice scrute donc les seuls éléments disponibles, parce que vus par elle-même, dans l'enfance ou dans l'actualité de sa vie ultérieure. Cette observatrice est fascinée par le voile des femmes musulmanes qui, dans de rares occasions, s'enlèvent et se replient méticuleusement, mais la plupart du temps se referment en masquant le corps. Cette observatrice se trouve ou regarde depuis une porte, je cite, et je vais énumérer quelques-uns de ces écrans symboliques ou réels, donc je puise dans les textes. Donc l'observatrice regarde depuis une fenêtre, derrière des vitres qui sont quelquefois d'un verre granuleux, opaque, caché sous le bureau paternel, à l'abri d'un tronc d'arbre qui l'occulte, mais lui permet de voir, à travers une sorte de rideau, à travers la vitre de la Peugeot noire, à travers les losanges verts d'un grillage, à travers les lattes des volets, de l'autre côté d'une palissade, etc., etc. Elle regarde le monde extérieur à la fois proche et étranger, et lointain, celui de son enfance algérienne. Et c'est une expérience ambiguë qui met au jour l'évidence de la séparation douloureuse, mais en même temps, la possibilité d'une protection contre un monde extérieur si différent, attirant et menaçant. Je cite une phrase de « Je ne parle pas la langue de mon père ». Il fallait regarder depuis la fenêtre à moustiquaire de la salle de classe, une moustiquaire ou des barreaux. Bon, nous restions à la fenêtre ouverte sur le stade, protégée par une grille fine et des barres de fer. Il y a à la fois l'idée qu'on est emprisonné derrière ces barres de fer, que cette moustiquaire fait écran, et en même temps, on l'a noté, c'est aussi une protection. Et l'observatrice adulte décrit aussi bien certains aspects du monde de la France d'aujourd'hui, depuis le banc d'un square, depuis son balcon ou sa fenêtre, de l'autre côté d'une frontière invisible et néanmoins infranchissable. Par exemple, la vie des SDF se trouvant dans une sorte de marginalité et qui s'établissent provisoirement sous le viaduc, c'est le titre d'un de ses ouvrages, sous le viaduc de la ligne 6 du métro aérien parisien. Voilà ce que cela m'inspire. Comme Lolvestein, à jamais ravie à elle-même, par l'irruption de son fiancé auprès de par Anne-Marie Streeter surgissant dans la vie de son fiancé et qui regarde de l'autre côté de la fenêtre le couple fusionnel qu'il constitue, il me semble qu'il y a de la même façon une sorte de scène fondatrice qui est la captation de l'autre côté justement d'une sorte de frontière, captation subreptice de la voix paternelle, charriant une connivence naturelle avec les gens de son peuple dans leur arabe natal. Cela marque la fascination de l'écrivaine qui la reproduit encore et encore, directement et indirectement. Cette fascination n'empêche pas d'interroger le silence, de lui chercher des explications. Et c'est là qu'on est, effectivement, dans l'essai qui formule des hypothèses, mais pose aussi des conclusions, et que je ne peux que réitérer à mon tour. Première explication, ça se trouve évidemment dans la situation coloniale qui imposait la langue dominante, la prévalence de la langue française, minorant, écrasant les langues et dialectes arabes et berbères. Dans cette situation, comment ne pas comprendre le choix des parents de n'élever les enfants que dans la langue du prestige social? D'autres pères arabes ont fait de même. Par exemple, on le sait bien, c'est ce que racontent Kateb Yassine ou Assia Djebar, pères arabes qui n'avaient pas, eux, épousé une femme française. Mais le père arabe, on le comprend bien, celui d'Assia Djebar, a épousé aussi bien qu'une femme française la langue française. En homme lettré, cultivé qu'il était, pouvant aussi bien s'exprimer et posséder l'arabe que le français. C'est un choix relativement libre qu'il effectue en faisant un distinguo radical entre la culture portée par la langue française, naturellement, et l'administration coloniale. Comme le faisait un de ses amis, une sorte justement d'homologue, Mouloud Feraoun, qui lui-même affichait, y compris dans l'exacerbation de la guerre, son amour inconditionnel pour la langue et la culture française, sans rien renier de sa berbérité originelle. C'est une des explications, naturellement, et on ne peut pas la révoquer. L'explication la plus troublante, qui à mes yeux est la plus belle preuve d'amour qu'une fille puisse donner à son père, est plus rare, me semble-t-il. C'est la conscience que la non-transmission de la langue arabe était sans doute aussi pour lui une façon de résister à l'assimilation totale. En restant l'étranger arabe, vis-à-vis d'une famille française générée et aimée, ce père arabe garde une sorte d'intégrité qui passe nécessairement par cette non-transmission, par cette opacité. Voilà le parallèle que je voudrais établir. Je voudrais le faire avec un ouvrage d'un essayiste et d'un grand intellectuel marocain, Abdel Fattah Kilito. Et à l'un de ses ouvrages qui s'appelle « Tu ne parleras pas ma langue ». Abdel Fattah Kilito est vraiment un grand connaisseur de la littérature française qu'il enseigne et de la littérature arabe et un grand passeur de l'une à l'autre. Et il s'attache justement à faire rayonner dans le monde arabe l'une et dans le monde occidental l'autre. Et pourtant, dans ce texte qui s'intitule « Tu ne parleras pas ma langue », il se livre à une sorte d'aveu un peu ironique, un petit peu aussi, qui est une sorte d'esquive, à cette anecdote. Il dit son choc, son malaise à avoir rencontré une jeune américaine au Maroc, parlant en darija, en arabe dialectal, sans accent, et en employant, qui plus est, des expressions populaires spontanées, par exemple « wallahillah », que n'importe quel musulman ressent comme exclusivement réservé à un musulman. Et voici ce qu'il dit, du choc et du malaise qu'il a ressenti. Il a le sentiment d'être dépouillé d'une part intime de lui-même. Je cite « Cette personne d'origine si lointaine suscite l'embarras. Non seulement elle nous dépouille brusquement de notre langue, nous arrache notre langage, et les constituants de notre existence, ce que nous pensons être notre identité, elle nous dépouille de nous-mêmes et de notre abri. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce type dans la décision du père, ou tout au moins dans ce que Leïla Sebar suppose être une des motivations au silence du père. Elle le pressent, elle le comprend intuitivement, intellectuellement. Et cette acceptation, aussi douloureuse soit-elle, ne conduit et ou en tout cas n'est la marque d'aucun renoncement. Cela l'incite au contraire à une forme de combat. Et je passe à ma deuxième étape. Il s'agit pour elle d'écrire malgré ou contre le silence. Alors, une des stratégies repose sur la réitération elle-même. C'est un procédé que je qualifierais procédé d'accumulation, qui consiste à revenir inlassablement à ce silence, avec des constantes, avec d'infinies variations. C'est une tentative, délibérée ou non, de combler, tenter de combler le vide instauré par ce silence. Je dirais que c'est le pendant dans l'écriture de son goût affiché dans le domaine extralinguistique pour la collection. Collection d'objets de curiosité évoquant l'Algérie, de cartes postales de l'époque coloniale, de livres se rapportant à cette période, de livres scolaires en particulier, de portraits de femmes algériennes, saisis par des photographes plus ou moins inquisiteurs, d'œuvres de peintres orientalistes qui sont recherchées dans les musées, dans les expositions, dans les livres de reproduction. Certains éléments de ces collections figurent, et c'est tout à fait important, dans les ouvrages publiés. Alors, ils ne servent absolument pas d'illustration. Ils répondent encore moins à une proposition de consommation pittoresque. Ils viennent relayer, en quelque sorte, les défaillances du langage. Ce sont des traces, des fragments d'Algérie, arrachés au silence de la non-transmission. Et pourtant, ils donnent le sentiment, non d'une possession satisfaite, mais toujours de l'évidence frustrante de l'insaisissable qu'ils finissent par évoquer. D'où, me semble-t-il, la préférence pour les photos de femmes au regard impénétrable, qui défient, qui se refusent farouchement à l'observateur, en dépit de leur dévoilement, d'où son inclination pour des orientalistes moins conventionnels que d'autres, tels Étienne Dinet, épris de langue et de culture arabe et cherchant à capter dans les personnages ou paysages algériens reproduits, non leur étrangeté exotique, mais l'émanation impalpable d'une spiritualité qu'il pourrait dégager. Cela se décline, cette nécessité de l'accumulation, en édition d'ouvrages collectifs, dans lesquels, je le sais d'expérience, il faut que le plus grand nombre possible d'auteurs contribuent, qu'on appelle à témoigner, à la fois par le verbe et par l'apport obligé, d'une photographie issue de leur album familial. Il faut qu'ils témoignent ainsi de leur rapport à l'Algérie, qu'elle ait été connue dans l'enfance ou qu'elle ait été héritée par transmission ou non-transmission parentale. Ces gerbes de récits répondent à un projet qui est utile, ambitieux, celui d'apporter un complément sensible, humain, par la diversité des expériences qui sont ainsi proposées, aux travaux synthétiques et distanciés de l'historien. Cela constitue de ce fait des cohortes d'auteurs dans les témoignages desquels on peut aussi trouver des similitudes ou des divergences par rapport à l'expérience personnelle de Leïla Sebar elle-même. Ces recueils de récits mémoriels modulent des formes de répliques ou de compléments aux récits personnels fragmentaires sans que jamais, bien entendu, les trous de celui-ci puissent pour autant être obturés. Alors, il y a d'autres stratégies, bien sûr, puisque l'accumulation se révèle insuffisante, celle de la recherche de substituts. Cette Algérie lui a été dérobée dans l'enfance par le silence paternel, mais je veux faire allusion aussi à une autre forme de dérobade de l'Algérie, celle d'aujourd'hui. Elle fait défaut parce que, dans cette œuvre, même si elle émane d'un auteur qui est effectivement dans une situation assez rare, du fait du couple insolite que constituent ses parents en temps, justement, d'époque coloniale. Et c'est une œuvre qui est écrite par une auteure née en Algérie, ayant passé ses 20 premières années d'un père arabe, et qui donc donne une facette de l'histoire algérienne. Et pourtant, jamais en Algérie, me semble-t-il, elle n'est reçue comme telle. Rares sont les anthologies ou commentaires qui traitent de la littérature algérienne dans lesquelles est, par évidence, incluse l'œuvre de Leïla Sebar. Alors, bien sûr, on connaît la politique de l'État algérien qui a mythifié l'idée d'une homogénéité ethnique, religieuse, culturelle, et il semble que cela contamine la réception critique. Et cela donc dérobe également dans notre présent, l'Algérie à Leïla Sebar, et je pense que ça ne peut que revivifier, que rendre plus aigu, justement, ce qui s'est passé dans l'enfance. Si bien que j'aime la proposition qu'a faite, justement, à l'ouverture du colloque, notre organisatrice des colloques, il faut considérer, pour évacuer, justement, l'obligation de situer cette œuvre dans un champ national ou dans un autre, il faut plutôt évoquer le large champ de la littérature en langue française, qui est une littérature monde, même si cela pose quelques problèmes de dénomination ou de caractérisation. Donc, cette Algérie interdite, Leïla Sebar s'emploie à en découvrir des substituts en France, dans des paysages qui suscitent des réminiscences sensorielles, Alors, par touches délicates, suggestives, elle raconte l'émotion que lui procurent les retrouvailles d'un figuier, tout empreint d'une coloration d'enfance algérienne, le bonheur immédiat suscité par certaines odeurs, celles du jasmin, du citronnier, qui convoquent l'image d'une cour familiale. Bon. Si elle ne trouve pas ses traces dans le réel, eh bien elle les puise dans les livres des autres, ou si elle ne les trouve pas dans les livres d'autrui, elle les place dans ses ouvrages. Dans la lettre à mon père, je cite, « Je crois que c'est pour cette raison que j'écris, pour habiter ces paysages dans le secret de la fiction. » On connaît aussi la façon dont elle procure des substituts aux membres de la famille paternelle trop peu intimement fréquentés. Elle les cherche dans les squares, dans les cafés, auprès de femmes, auprès d'hommes, dont justement elle n'intercepte que des langues qui sont pures, que des conversations dépourvues de sens, sans laisser percer par une sorte de musique. Alors tout cela se retrouve consigné, transposé dans la littérature, dans l'écriture, qui lutte contre la perte. Et il y a une scène apparemment anecdotique qui est rapportée dans le dernier ouvrage, Lettre à mon père, qui réitère d'ailleurs des récits précédemment effectués, qui me semble emblématiser ce passage qu'on a déjà signalé du réel à la fiction et inversement, dans une vectorisation contraire. L'auteur rapporte son attachement aux bijoux. Aux bijoux anciens, en particulier ceux qui viennent d'Algérie, et elle parle tout particulièrement d'une broche héritée de sa mère, qu'elle a été bouleversée de retrouver dans des photographies ou des reproductions orientalistes, dans la parure des Ouled Naïl. Hein, donc une broche dont elle sait que c'est la même que celle qu'elle a héritée de sa mère. Cette broche, elle la porte, mais un jour, au cours d'une de ses promenades, elle la perd, la cherche désespérément, et doit se rendre à l'évidence, elle ne la retrouvera pas. Elle ne la retrouvera pas ? Si, si. Parce que justement, elle la met bien à l'abri dans ses récits, qui constituent des écrins, dans lesquels, précisément, désormais, il n'y aura pas de perte possible. Donc la littérature a ainsi le pouvoir de défier le manque par l'invention de fiction. Elle se constitue une immense famille virtuelle. Je vais passer assez vite sur les femmes rebelles dans lesquelles elle se projette, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. Elle projette aussi bien le couple réel et utopique qu'ont formé ses parents dans des fictions. Par exemple, je pense à Marguerite et le colporteur aux yeux clairs. Il y a ainsi donc une façon de lutter contre le silence. Et l'audace de l'écrivaine va jusqu'à défier le silence de la mort. Par exemple, dans l'invention d'une suite, lors de la réédition de « Je ne parle pas la langue de mon père » suivi de « L'arabe comme un chant secret », dans l'extension d'un nouveau texte intitulé « Sur la colline une Kouba ». L'auteur imagine une Kouba dans laquelle serait enterré son père, en le transformant ainsi, en défiant tout le réel, en une sorte de saint auquel on pourrait désormais vouer un culte. On ne peut pas imaginer des filles plus radicales à l'exil du père enterré loin de sa terre natale, sans les sacrements donnés d'ordinaire à un musulman. Des filles aussi contre l'exil de la fille qui a construit cette Kouba, l'a édifiée, l'a posée dans ses textes et la relie ainsi à la terre ancestrale. Il me semble que le dernier ouvrage personnel, Lettre à mon père, pousse à une sorte d'extrême, ce défi. Bien sûr, la convention littéraire de la lettre permet de parler à un défunt, d'autres écrivains s'y sont risqués. Je pense en particulier à l'écrivain marocain Youssouf Amin El Alami, qui 25 ans après la mort de son père écrit un texte, une lettre, dans laquelle il le montre, bien vivant. Le texte s'appelle « Même pas mort ». La lettre permet conventionnellement, justement, de parler à un défunt, mais rarement de le faire parler, qui plus est dans des dialogues. Hein. Et Leïla, dans son audace, va jusque-là, en essayant ainsi d'arracher au non-dit du réel, dans le pouvoir d'accroissement de la fiction, de la sensibilité littéraire que donne la fiction, l'invention littéraire. Il n'en demeure pas moins que même dans ce dernier texte, le dernier mot, si je puis dire, est donné à l'esquive du père à sa disparition s'en rappelle. Alors, est-ce que le recours à l'écriture s'avère déceptif? Il s'en faut de beaucoup. J'aborde mon troisième point. Je vais essayer d'aller vite. Il reste 1 minute, quelque chose comme ça. Il s'agit d'écrire le silence. Ça, c'est un autre défi. Alors, la sensibilité au silence est aiguisée par la littérature, y compris la littérature orale qu'on a l'habitude de déconsidérer ou de mettre dans une sorte d'infralittérature. Parce que toujours, dans ce qui est dit, on en a eu un exemple hier avec la conteuse merveilleuse qui nous a promenés aux confins, justement, de l'imaginaire et du possible. Les propos explicites que tout texte littéraire convoie charrient également de l'implicite, sur lequel il repose ou auquel il conduisent. Et c'est le cas des contes des hauts plateaux que, par exemple, Nora Arceval lui fait connaître. Ce qu'elle retient de ces contes, c'est moins les informations explicites qu'elle lui donne et qui pourraient justement venir un petit peu combler ce qui n'a pas été transmis dans l'enfance. Je la cite, phrase extraite de Lettre à mon père, « Nora Arceval m'a appris à entendre les silences. » Cette monstration en creux, elle peut reposer, on l'a vu, sur le paradoxal trop-plein, la profusion. Le procédé d'accumulation ne fait que souligner combien le gouffre est incomblable. Une des variantes à ce trait mélodique, qui serait l'écriture du silence, tient à une sorte d'écriture mélopée, une écriture litanique, qui par juxtaposition, retour, réitération, joue d'effets rythmiques, d'écho, qui donne à lire peut-être moins le détail du signifié que la mélodie du signifiant. La phrase arrive à être pure musique quelquefois, et donc ainsi permet d'évoquer la référence à cet arabe enveloppant dont il était question. Cela se dissout donc, cette possibilité d'y voir l'arabe, dans une géographie ou dans une interprétation rêveuse. Je ne parle pas la langue de mon père, je n'ai pas appris la langue de mon père, je ne parle pas la langue des sœurs du peuple de mon père, je ne l'apprendrai pas, etc. Il y a cet effet mélopé, si vous voulez, qui fait que, bien entendu, on entend la langue du père, on sait que cela réfère à l'arabe, mais cela dissout, cela finit par délayer la référence trop référentielle, trop explicite. Ça peut être aussi bien les toponymes. Par exemple, dans l'énumération de noms de villes qui ont été habitées, donc qui sont éminemment réelles, et qui finissent par devenir pure musique. Ces noms de l'enfance algérienne qui reviennent lancinants, Enaya, Aflou, Porcé, Blida parfois, Alger, peu souvent. Il réfère moins ces toponymes qu'il ne résonne comme la musique de l'enfance. Alors l'écriture du silence, ça repose aussi sur d'autres traits dont je vais essayer de donner un échantillon. L'oxymore, cette figure, elle réunit des contradictions, mais elle les laisse irrésolues. Et cela permet justement de montrer combien il y a ce hiatus à perpétuité. La figure permet d'enjamber peut-être le point lancinant en s'efforçant de tenir ensemble des éléments inconciliables, mais ça ne réduit pas l'écart dans lequel finalement il reste l'un et l'autre de ses pôles. J'en donne quelques exemples, mais vous en aurez bien d'autres à proposer. Les mots étrangers et familiers, violents et séducteurs, le silence bavard de ta langue, bon, etc. Mon père bien-aimé, les sœurs étrangères, etc. L'oxymore. Autre procédé stylistique, la phrase en suspens, qui permet d'introduire des éléments d'une signification sans mener celle-ci à l'élucidation totale. La complexité du sens ou la butée sur le nœud de l'énigme relève de la seule suggestion portée par les points de suspension. Ou non, quelquefois d'ailleurs, même pas signalée par la ponctuation. Et on serait quelquefois bien en peine d'essayer de finir avec certitude l'énoncé qui a été ainsi initié. La phrase principale qu'une subordonnée, par exemple, de condition introduit, elle reste sous-entendue et il n'est pas sûr que si nous nous risquons à l'exercice, nous complétions tous de la même façon la phrase. Si je parle la langue de ma mère, si je ne parle pas la langue de mon père, Lorsqu'on se risque à l'exercice de compléter ces phrases interrompues, on peut avoir le sentiment de ne jamais arriver à épuiser le faisceau d'arguments qui se présente à l'esprit, que le texte de ces titres, puisque j'ai choisi des titres en l'occurrence, annonce, mais il n'est même pas sûr qu'à la fin de la lecture, on puisse avec certitude épuiser justement ce qu'il faudrait mettre dans la suite de cette phrase suspendue. Les points de suspension apparaissent ainsi, me semble-t-il, systématiquement et presque de plus en plus au fil des textes. Je ne citerai que quelques exemples, par exemple celui-ci, pris dans « Je ne parle pas la langue de mon père » parce qu'il constitue une sorte de mise en abîme. Je dis que non, je n'exagère pas les mots, les gestes des garçons arabes, et que je pourrais même, point de suspension, je ne finis pas ma phrase, je ne sais pas ce que je veux dire exactement, mais je sais qu'un jour je le dirai. J'attends encore un autre texte, Leïla, pour être tout à fait sûre de pouvoir compléter cette phrase en suspens. Autre phrase, il s'agit du père. Il ne parle pas de ce qui pouvait faire souffrir, il pensait qu'il fallait oublier, ne pas rappeler la peine encore et encore. Voilà, la phrase propose des explications, des motivations, et même, on voit bien, elle est dans la surenchère, elle se poursuit pourtant par des points de suspension, comme si ces explications qu'on avait proposées étaient loin de suffire. Bon, je pourrais en citer bien d'autres. Allez, encore une extraite de « Lettre à mon père ». « Lorsque j'y vais dans le pays de mon père, c'est par effraction. » Je dis le pays de mon père, je ne dis pas mon pays. Point de suspension. Je ne résiste pas au plaisir d'en donner encore un exemple. Alors, cher père, si tu es apaisé, tu peux m'expliquer cette émotion qui me prend dès que je vois, dès que je revois indélébile une Kouba sur une image dans ma mémoire. C'est comme si... Point de suspension. La phrase peut ainsi aussi rester incomplète par le recours à la syntaxe nominale qui élude le procès qui est d'ordinaire explicité par le syntagme verbal. J'en donne un exemple. « Mon père musulman ». C'est dans « Je ne parle pas la langue de mon père ». Alors, il y a tout un paragraphe qui est ainsi annoncé par une sorte de phrase-titre, mais ce qui est frappant, c'est justement cette sorte de réduction à l'essentiel, dont on n'est pas sûr que, justement, tout soit dans le dit. Alors, la phrase peut aussi fréquemment être coupée par le revirement syntaxique, la nacolute expressive, qui montre, autant qu'elle essaye de dire, l'hésitation, la dissociation, l'irréversible division. Exemple pris au ravin de la femme sauvage, une des nouvelles. « Je te voyais de loin, de l'autre côté du mur », quelqu'un m'a parlé de l'usage des virgules. Il faudrait voir la phrase écrite pour voir le poids de la ponctuation aussi. Je reprends. Je te voyais de loin, de l'autre côté du mur, à travers les losanges métalliques verts du grillage, debout contre la pierre. Est-ce que des branches de romain dissimulaient ma curiosité? Quel revirement, hein, dans ce qui commence comme une description et qui finit par une sorte d'auto-analyse. Par exemple encore, dans « Je ne parle pas la langue de mon père ». Mais avec les enfants, ces enfants nés sur sa terre à lui, de son corps infidèle, il a rompu la lignée, ces enfants nés dans la langue de leur mère. Voilà une phrase avec une syntaxe assertive, même si elle est déjà pas mal coupée. Hein. Mais ce qui est tout à fait troublant, c'est le point d'interrogation qui vient saper, justement, l'assurance de l'assertion. On aurait ainsi quantité d'exemples, justement, à montrer l'usage qu'elle fait de cette syntaxe-là. Donc, il me semble, je ne suis pas allée, bien entendu, dans l'exhaustif, qu'il y a là quelques-uns des traits du style de Leïla Sebar qui cherchent à faire entendre ce qui n'a pu être dit ou ce qui ne peut être dit relèverait de l'indicible. De même que le silence qui suit la musique est encore de la musique, tant il prolonge l'émotion, le transport émotif et esthétique qu'elle a donné aux auditeurs. De même, le silence dans lequel reste souvent la phrase suspendue de Leïla Sebar fait encore partie de son écriture et de l'émotion qu'elle porte et transmet grâce à la présence spectrale de la langue du silence. Un parallèle pertinent avec une autre modalité d'expression artistique peut aussi venir à l'esprit et s'avérer éclairant. Il est d'ailleurs posé, c'est pour ça que j'ai l'impression de marcher systématiquement dans les pas de Leïla Sebar, commentatrice de son œuvre, il est posé comme un indice dans un de ses textes, lorsqu'elle parle des aquarelles de Sébastien Pignon, son fils artiste. Elle évoque en particulier les mausolées symboliques que sont les Koubas et dont Sébastien a peint un grand nombre pour un des ouvrages qu'elle a publié aux éditions Bleu Autour. Elle en reparle dans « Lettre à mon père ». Je lis « Plus tard, Sébastien s'est emparé des Koubas. Les a-t-il vus entre Cherchel et Ténès et Tipaza, aquarelle, gouache, point de suspension. Des Koubas pour moi, pour mes livres, pour Nora, Mustapha, pour toi si tu veux. Émouvante, comme s'il percevait des larmes invisibles. » Alors ces larmes que l'aquarelle laisse deviner, sans les représenter dans l'évanescence aqueuse de la peinture, ce sont celles qui coulent silencieusement en deçà de certains énoncés, quelquefois même sous le propos le plus léger ou le plus humoristique. Ce sont celles de toute façon qui ont surgi de façon inopinée devant la photo de femme que lui a présentée Agnès Varda, si je ne me trompe, femme musulmane regroupée autour d'une kouba. Scène sur laquelle elle revient dans le dernier opus du cycle en comprenant qu'elle a figuré pour elle l'irrémédiable séparation, métonymiquement liée au silence. L'écriture de Leïla Sebar est ainsi hantée par l'absence, l'étranger bien-aimé, le père musulman, la langue absente, les femmes absentes. Et on le devine à cette scène photographiée où des femmes doivent parler la langue absente qui les subsume, qui subsume tout cela. Elle en est tout à fait consciente dans la « Je ne parle pas la langue de mon père », cette langue arabe que les autres, que moi aussi longtemps, ont cru étrangère, hostile parfois, dangereuse. L'arabe de mon père donne émotion, chant profond à la langue de ma mère. Donc écrire ce silence-là est bien sûr lié à l'expérience spécifique de cette naissance dans l'Algérie coloniale, exacerbée par la guerre dans laquelle, justement, cette histoire commune entre la France et l'Algérie s'est achevée. Mais elle a aussi une possibilité d'extension universelle. Et c'est pourquoi, il me semble, l'œuvre de Leïla Sebar peut procurer émotion à des lecteurs peu concernés par ce fait historique. Et je voudrais rapprocher, autre évidence pour moi de convocation, donc d'un autre auteur, je voudrais rapprocher de la position de Leïla Sebar, celle de Jacques Derrida, celle qui commande, vous le savez bien, dans le monolinguisme de l'autre ou la prothèse de l'origine. Il rapporte combien pour lui aussi la langue française, sa seule langue parlée, lui semblait ne pas être la langue dont il avait besoin, ne pas correspondre à sa langue véritable. Pour la communauté juive dont il procédait, l'expérience de l'impossible identification à ce modèle dominant déstabilisait sans doute d'autant plus qu'il n'y avait pas de langue à perdre, pas de berbère ou d'arabe ancestral à conserver dans l'intimité du foyer. Pas même, comme pour d'autres communautés juives, de judéo-espagnols, qui n'avaient pas cours en Algérie, ni de ladino, comme pour les communautés juives des Balkans. Et Derrida insiste à la fois sur la spécificité de la situation sociolinguistique des Juifs d'Algérie, et en même temps de la possibilité d'extension à l'universel de cette situation singulière. Et il arrive à dire, bien entendu, il y a toujours une langue manquante, ce qu'il appelle une avant-première langue, et qui n'a rien à voir avec la langue maternelle que décrivait Jacques Assoun, celle qui se passerait de mots. C'est au contraire, dit Derrida, une langue à inventer, une langue projetée dans le futur, bien sûr, qui oblige précisément dans la langue conventionnelle héritée de se faire sa propre langue, d'advenir en tant que sujet dans la langue. Et cela a constitué pour lui, dit-il, un trouble, bien sûr, mais aussi une chance, une obligation d'inventer. Pour Leïla Sebar, il en est allé de même. Le silence du père, bien entendu, motive, justifie le silence par le contexte colonial, mais il y a bien autre chose qui se trouve ainsi convoqué. Ça ne s'explique pas non plus uniquement par le silence qu'on trouve dans des familles et qui est motivée ou justifiée par le fait que les pères veulent éviter la souffrance aux enfants. On sait que c'est le contraire qui se produit. Mais d'ailleurs, quand l'hypothèse est émise dans un des textes, c'est aussitôt pour être sapée par le doute. Par exemple, dans « Je ne parle pas la langue de mon père », peut-être la langue étrangère l'a séparée des mots qu'il aurait choisis pour nous, les enfants. Il y a même, précisément, dans l'effort, dans l'exigence de la démarche d'interrogation qu'elle poursuit, dans ces textes qui sont aussi des essais, des épisodes qui infirment l'hypothèse que c'est la langue arabe qui a séparé ou qui a produit justement ce silence-gouffre, séparant le père de ses enfants. Prenons l'épisode de l'emprisonnement du père pendant des années, dont l'auteur se plaint qu'il n'en ait jamais parlé à ses enfants. En fait, le père a parlé de cela. Il n'en a pas parlé aux enfants, ce qui est autre chose. Il en a parlé à sa femme, ne serait-ce que dans des lettres intimes, que le dernier ouvrage produit sans oser aller jusqu'à les commenter, tant précisément ces lettres, elles n'avaient pas pour destinataire les enfants. Et d'ailleurs, l'auteur note, à sa femme il parle, dans la langue de la France, sa langue à elle, je les entends depuis la véranda. Donc, il y a, et là aussi, le texte est beaucoup plus conscient et clairvoyant que je ne pourrais le faire, il n'y a jamais de langue commune entre un père et une fille, entre un père et des enfants. Il y a des choses qui doivent rester dans le secret, qui n'engouffrent pas seulement les choses douloureuses, mais qui doit rester, me semble-t-il, la lacune nécessaire au passage d'une génération à l'autre. C'est dans le manque, c'est dans le blanc du silence que le père donne à l'enfant l'obligation de se constituer en sujet autonome. Donc cette langue absente, bien entendu, elle habite le français de l'écriture, mais elle donne aussi à Leïla Sebar sa propre langue, justement, cette langue qui est l'avant-première langue que souhaitait Jacques Derrida. Cette expérience est aussi extensible à l'universel. D'ailleurs, dans « Je ne parle pas la langue de mon père », l'auteur écrit « Les filles et les fils qui écrivent révèlent-ils un secret, des secrets de famille ignorés ?» Puis elle revient sur ce terme de secret qui, pour moi, est un des substituts au terme de silence. « J'ai trahi un secret, précisément, dans ces livres. Et c'est pour cela que mon père ne devait pas les lire. » Un secret, quel secret ? Vous voyez bien qu'on est renvoyé sans arrêt à ce qui ne peut être explicité et qui doit rester, précisément, dans le non-dit. Je voudrais aussi faire un parallèle avec un ouvrage que je viens de lire qui n'a rien à voir et qui a tout à voir. L'ouvrage de Raphaël Branche, qui est une historienne qui a fait une enquête remarquable auprès d'enfants, de pères qui avaient été mobilisés en tant que conscrits, donc de jeunes appelés, pendant la guerre d'Algérie, donc surtout vers la fin de la guerre d'Algérie, des années 57 à 61. Et elle donne comme sous-titre à son une enquête d'historienne qui a pour titre « Dis papa, qu'as-tu fait en Algérie ?»« Histoire d'un silence ». Parce que ce qui est frappant, c'est que les pères n'ont pas parlé à leurs enfants de cette partie. Alors, l'enquête montre et infirme que quelques-unes des hypothèses qu'elle posait au départ se trouvent vérifiées à l'issue de l'enquête. Les pères n'ont pas parlé parce que ce qui avait à révéler bousculer l'image qu'un père devait donner à ses enfants, montrer la fragilité qu'ils avaient acquise à voir ou à effectuer eux-mêmes des choses, justement, qui étaient de l'ordre, non pas de l'indicible, puisqu'ils peuvent le dire ultérieurement, mais qui étaient de l'ordre de ce qui ne se dit pas entre un père et une fille, ou entre un père et un fils. Mais alors, ce qui est le plus troublant, ce qui m'a intéressée, c'est que, donc 50 ans après, elle fait cette enquête, elle distribue des questionnaires. Et certains des pères qui n'avaient jamais pris la parole éprouvent le besoin d'écrire, de se délester dans le fond d'un poids de culpabilité ou de lâcheté qui pesait sur leurs épaules. Ils rédigent des récits entrant dans le détail de leur expérience de conscrit. Et ils diffusent ces écrits auprès de leurs enfants. Et les enfants n'en disent rien. Et les pères eux-mêmes sont dans la sidération ou dans l'interrogation du silence des enfants. Et l'historienne elle-même n'a pas d'explication pour dire pourquoi, lorsqu'enfin ce que les enfants ont attendu tant, si longtemps, avec autant d'intensité, se produit, eh bien cela ne provoque en retour que du silence. Eh bien parce que quelque chose a été dit de ce qui ne devait pas être dit, me semble-t-il, et qui ne repose pas sur l'horreur des faits évoqués, qui est d'un autre type. Et finalement, c'est ce que fait la littérature, elle essaie sans cesse, et elle doit, bien entendu, toujours, fouiller le secret qui gît au fond du silence, mais bien entendu, elle ne fait que creuser davantage, que mettre à l'horizon ce qui doit rester précisément de l'ordre du sacré, du mystère. Et finalement, je vais conclure sur la dernière association qui me vient à l'esprit. En essayant de travailler sur cette langue du silence, je vais laisser Edmond Jabès conclure à ma place. Et je vais citer un extrait du livre du dialogue. « L'oubli n'est pas trou de mémoire, mais trou dans l'originaire secret d'où jaillit la source. À l'origine, il y eut le secret, puis le secret se fit verbe, et le verbe défenseur du secret. » Thank you.